Mes chers amis, je suis heureux de vous rencontrer ce soir. Je viens de passer 3 journées très remplies dans le centre de jeunesse en mission à Denham, où nous avions comme thème les paroles de Jésus, « Je bâtirai mon Église ». Et jusqu'au dernier moment, cet après-midi, après la clôture de cette mission qui avait lieu aux environs de 5 heures, j'ai eu encore des entretiens avec plusieurs jeunes. Tous les soirs, c'était jusqu'à minuit qu'ils étaient dans ma chambre, les uns après les autres, et j'ai pu remarquer combien ces jeunes étaient dans la détresse, parce qu'ils s'étaient placés eux-mêmes dans une situation inextricable. Et pourtant, tous avaient fait profession de se donner au Seigneur Jésus à un moment de leur existence. Mais, tout en ayant reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur, peut-être ne l'avaient-ils pas reconnu encore comme celui qui doit devenir le Seigneur de notre vie et inspirer toutes nos pensées, tous nos actes et aussi toutes nos paroles. Et j'ai été étreint au plus profond de mes entrailles par un immense amour pour cette jeunesse qu'on amène à la connaissance d'un certain évangile et d'un certain Jésus, mais qu'on n'enseigne pas dans les vérités profondes et fondamentales de l'Écriture. Vérités qui auraient pu, si elles avaient autorité dans leur vie, influencer leur comportement et les conduire non pas à l'impasse ou dans un tunnel et qui semble ne pas devoir finir, mais qui les aurait conduits vers une pleine lumière. Et c'est pourquoi, en pensant au thème qu'on m'a demandé de traiter ici, je veux croire éperdument que dans ces quelques soirées, l'Esprit de Dieu nous enseignera ce qu'il est absolument urgent pour les uns et les autres, les plus jeunes comme les plus âgés, de connaître. Les vertus chrétiennes par excellence et leurs pratiques quotidiennes, car la vie chrétienne ne se vit pas à certaines heures et dans certains lieux, c'est-à-dire aux heures de culte ou d'office religieux dans une chapelle ou dans une église, mais la vie chrétienne se vit 24 heures sur 24 heures dans les moments où nous sommes solitaires, comme aussi dans ces heures que nous partageons dans nos familles avec une épouse, un mari, avec des enfants, comme encore dans les heures de travail dans la société civile. Il est question pour nous d'être imprégnés de cette vie de Jésus à tout instant de nos jours et de nos nuits, car les vertus, c'est-à-dire ces forces, selon le sens étymologique du mot vertu, cette force qui doit nous animer, nous en avons besoin seconde après seconde pour être authentiquement des chrétiens. Mais nous allons laisser au Saint-Esprit le soin de structurer jour après jour, selon nos besoins, les messages que nous avons à vous apporter. Et ce soir, je voudrais simplement vous rappeler les trois vertus essentielles du christianisme qui ont été appelées au cours des âges les vertus théologales de Théos et de Logos, deux mots grecs qui veulent dire Dieu, et discours. Ces vertus théologales ont donc Dieu lui-même pour objet, et nous sont révélées dans l'Écriture. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister pour les nommer ce soir, vous les avez toutes reconnues, c'est la foi, c'est l'espérance et c'est l'amour. Base de tout christianisme réel. Et puisque vous comme moi, nous savons en quel temps nous sommes, selon ce que Paul dit au chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens, sachant que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, nous allons demander à Dieu que dès ce soir, il nous examine au sujet de la réalité de notre foi, au sujet de la réalité de notre espérance, et enfin au sujet de la réalité de notre amour. Est-ce que nous vivons de foi, par la foi et pour la foi? Est-ce que notre vie dans ce monde est réellement une vie de foi? Est-ce que notre témoignage manifeste que nous sommes habités par une espérance vivante, une espérance qui ne confond point et qui remplit nos cœurs au travers de toutes les détresses que nous pouvons rencontrer, au travers de toutes nos épreuves et même de nos larmes, puisque l'apôtre Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, nous pleurons, mais nous ne pleurons pas comme ceux qui sont sans espérance. Quelle est notre espérance et la force de notre espérance aujourd'hui et l'objet de notre espérance? Enfin, nous demanderons à Dieu de nous examiner sur l'amour. Car quand nous serons devant lui un jour, et c'est peut-être ce soir qu'il peut nous appeler à paraître devant lui, nous ne serons examinés que sur un point, notre amour. As-tu aimé? Et si la réponse peut être positive devant ce Dieu qui est lumière, et que nous ne pouvons pas tromper, si la réponse est positive, si nous avons vraiment aimé, alors nous aurons manifesté la vraie nature de Dieu dans nos vies, car Dieu est amour. Hein? Eh bien, mes frères et sœurs, depuis longtemps, le Seigneur m'a montré que tout message que nous apportons devait avoir un caractère prophétique. Ce qui ne veut pas dire que je m'en vais vous annoncer l'avenir. Le prophète n'est pas nécessairement un homme qui annonce les choses futures, qui annonce l'avenir. Le prophète est un homme qui se tient devant Dieu pour ses frères et qui devient le canal de Dieu, qui devient la bouche de Dieu, qui reçoit son message du cœur de Dieu et qui cherche à le transmettre avec une fidélité absolue, sans rien y ajouter et sans rien y retrancher. Et je demande que vous ayez, par le Saint-Esprit, des cœurs ouverts pour recevoir non pas la parole d'un homme, mais comme elle l'est véritablement, la parole de Dieu. Cette parole inspirée de Dieu qui a la puissance de vous convaincre, de vous instruire, de vous corriger et de vous enseigner. Dans toute parole prophétique, nous trouvons un élément qui est un enseignement. Et nous avons tous besoin d'être enseignés. C'est-à-dire de grandir dans la connaissance de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. À connaître Dieu, le connaître lui, dit saint Paul, c'est tout ce qu'il peut désirer. Après des années de communion avec le Seigneur, il n'a qu'un désir au fond de sa prison de Rome, c'est de le connaître lui, de le connaître encore, de le connaître toujours mieux, et de connaître la puissance de sa résurrection pour pouvoir réellement entrer dans la communion de ses souffrances, pour avoir sur la terre part aux vraies souffrances chrétiennes. Car si nous sommes authentiquement chrétiens, ne nous faisons pas d'illusions, nous avons à souffrir sur la terre. On ne peut pas être chrétien aujourd'hui sans avoir part à ces souffrances. Mais quand ce sont des souffrances et qui viennent de notre fidélité à Dieu, à sa justice, à sa sainteté, à son amour, ce ne sont plus nos propres souffrances, ce sont les souffrances de qui ? Les souffrances du Christ. Nos propres souffrances deviennent les souffrances du Christ. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire aux Colossiens, j'achève en mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ pour l'Église. Il n'est pas question de souffrance expiatoire. Le Seigneur a tout souffert et il a tout accompli et on ne peut rien ajouter à ses souffrances pour notre salut. Dans ses meurtrissures, nous avons une entière guérison, mais il est question des souffrances pour que tous les membres du corps de Christ deviennent semblables à la tête glorieuse qui est dans le ciel. Ce que l'on a vu en Christ doit être reproduit dans chacune de nos vies et nous devons travailler auprès de nos frères afin que se reproduisent par la puissance du Christ et du Saint-Esprit les caractères de Jésus dans notre propre vie, et j'insiste sur cela, dans notre vie quotidienne, heure après heure, où que nous soyons, avec qui que ce soit que nous nous entretenions, il faut que le caractère du Christ soit manifesté dans nos vies. Donc, dans une parole prophétique, il y a un enseignement qui nous apprend à connaître davantage le Seigneur. Et si vous pouviez repartir de ce temps familial en connaissant mieux votre Seigneur, en connaissant mieux votre Père des cieux, le Père de votre Seigneur, devenu votre Dieu et votre Père. Quel bonheur pour vous! Quelle possibilité merveilleuse vous auriez pour continuer votre existence, quel que soit votre âge. Mais dans toute parole prophétique, il n'y a pas seulement une instruction. Il y a une exhortation. C'est pourquoi il est bien possible, et je désire le dire de suite dans cette introduction générale, il est bien possible que vous passiez dans ce camp où vous êtes venu pour vous détendre et vous reposer, certains mauvais moments. Alors, vous vous dites, eh bien, quel malheur qu'il soit venu. Si c'est pour nous faire passer de mauvais moments. Et nous, nous sommes nous-mêmes trompés d'adresse. Mais, soyez-en sûrs, je ne suis pas un boucher. J'essaye d'être seulement un berger. Mais quelquefois, le berger, lorsqu'il voit que sa brebis est blessée, il doit la soigner et... si elle a une épine quelconque dans une patte, il faut enlever l'épine, ça peut faire un peu mal. Peut-être que vous découvrirez qu'il y a en vous une blessure secrète et vous vous sentirez concerné. Je ne dis pas visé, je ne connais personne selon la chair, mais vous vous sentirez concerné, vous vous direz, mais cette parole, elle est pour moi. Oh, plus à Dieu que vous puissiez dire cela, parce qu'alors vous ne seriez pas venu en vain, car si le Seigneur pense votre blessure, vous partirez guéri. Nous avons besoin dans ce monde d'exhortation, nous avons besoin d'être réveillés, c'est le temps de nous réveiller du sommeil, c'est si facile de s'endormir. Sur l'oreiller de la grâce, je suis sauvé, j'attends le Seigneur, il ne peut rien m'arriver de fâcheux. Et puis nous sommes satisfaits de nous-mêmes, alors que le Seigneur voudrait nous voir debout et non pas couchés, et nous voir témoigner avec foi, amour et espérance. Enfin, dans toute parole prophétique, il n'y a pas seulement un enseignement, il n'y a pas seulement une exhortation, mais il y a aussi une consolation. Et je sais aussi que dans tous les auditoires que je rencontre, nous trouvons des personnes qui sont dans l'épreuve, qui ont des souffrances peut-être très cachées et qui ont besoin d'être consolées. Eh bien, je demande de tout mon cœur au Seigneur que dans ces journées, vous puissiez dire... nous avons reçu une consolation qui était toute personnelle, que nous avons acceptée du Seigneur. Je repars consolé par mon Seigneur et par sa parole. Bien-aimé, dans le monde actuel, il se réalise une prophétie de Jésus. Nous arrivons très probablement vers l'heure où le Seigneur se lèvera sur l'ordre de son Père pour apparaître subitement sur les nuées du ciel et appeler à lui son Église, qu'il a aimé et pour laquelle il a donné sa vie. Le monde entier va bientôt voir disparaître toute une partie de ceux qui y vivent. Cela va certainement en attrister plusieurs, mais en réjouir d'autres, car cela va donner une solution au chômage. Car quand tous les vrais croyants seront loin, il faudra bien que la vie continue et il y aura de grandes possibilités de travail. Quand ceux qui auront servi le Seigneur seront au travail dans le ciel. Oh, chers amis, est-ce que vous vous réjouissez d'être là-haut? Nous n'irons pas au ciel pour notre pour travailler. On a assez peiné sur la terre. On a eu ici-bas qu'un petit tabouret. Mais nous, nous attendons d'avoir un grand fauteuil au ciel. Et un bon lit, nous allons nous reposer au ciel. Eh bien, détrompez-vous. Vous allez travailler aussi. Avec le Seigneur, qui va vous associer à son œuvre. Il va nous préparer pour ce grand travail du gouvernement mondial de la terre. Car après avoir repris les siens, il reviendra avec les siens pour établir son royaume de justice et de paix avec une équipe qu'il aura lui-même préparée. Mais cette préparation, elle ne se fait pas qu'au ciel, elle se fait déjà maintenant dans la mesure où depuis votre conversion, vous manifestez une fidélité dans les petites choses, car la vraie fidélité chrétienne, elle est dans les petites choses. Et si vous avez été fidèle dans les petites choses, si vous avez mis en pratique le peu de connaissances que vous aviez, le Seigneur vous établira sur beaucoup dans son royaume. Souvenez-vous toujours de cela. Eh bien, le Seigneur avait prophétisé que quand l'heure de son retour sonnerait, il trouverait peu de foi sur la terre. Quand le Fils de l'homme viendra, disait-il, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Cette vertu dont nous désirons vous parler au cours de cette semaine, est-ce que nous voyons autour de nous un accroissement de la foi chez les individus, dans les églises et dans la chrétienté? Est-ce que c'est la foi et qui manifeste aujourd'hui ce qu'est la chrétienté en face du mouvement de l'islam, en face du judaïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme, du shintoïsme et que sais-je encore? Est-ce que vraiment les chrétiens manifestent une foi authentique et vivante? Et vous-même, dans cette soirée du 5 juillet 1981, quelle est la mesure de votre foi? Est-elle petite ou grande? Êtes-vous un homme et une femme remplis de foi, de cette vertu, de cette force qui vous pousse à mettre votre confiance entière dans les promesses du Seigneur? Ou bien êtes-vous, comme Pierre se l'entendait dire par Jésus, un homme de peu de foi? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Est-ce que vous êtes toujours à vous enfoncer dans les eaux lorsque l'épreuve est là? Ou bien est-ce que vous pouvez marcher sur les eaux en regardant à Jésus et non plus en écoutant la voix du vent, de la tempête ou en regardant la hauteur des vagues? Regardez Jésus et avancez même sur la mer agitée de la vie. Et quelle force! Avez-vous cette foi vivante que le Seigneur voudrait trouver quand il reviendra? Nous l'avons entendu de sa bouche. Il y aura au moment de son retour sur cette terre christianisée une diminution de la foi. Il y aura aussi une diminution de l'espérance. Par la bouche de l'apôtre Pierre, nous avons été avertis que dans la proximité du retour de Jésus, beaucoup d'hommes diraient, mais où est la promesse de sa venue? Si l'espérance chrétienne n'est pas seulement la résurrection des morts, mais si l'espérance chrétienne est le retour de Jésus-Christ, comme il nous l'a promis, il reviendra. Si l'espérance chrétienne nous a dit que nous devrions être de ceux qui se réjouissent. Or, qu'en est-il des chrétiens aujourd'hui? Il y a peu de chrétiens joyeux, il y a peu de chrétiens qui manifestent, qui vivent dans l'attente de cette rencontre avec celui et qui est ineffable et qui rassasira nos regards. Mes yeux verront le roi dans sa beauté, et avec lui je contemplerai l'étendue de toutes ces planètes, de toutes ces galaxies. Nous saurons alors tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé nous sera révélé, et c'est avec lui que nous visiterons toutes ces choses extraordinaires et qui préoccupent aujourd'hui tellement les esprits des hommes. Mais beaucoup aujourd'hui nous disent: mais le retour de Jésus, où est la promesse de sa venue? Depuis le temps qu'on nous dit cela, les choses demeurent dans le même état comme au commencement. Et il y a une ignorance volontaire même dans les églises. On ne veut plus parler du retour de Jésus, et même dans nos milieux évangéliques, de moins en moins, il semble qu'on veuille en parler avec précision, parce que maintenant on a toutes sortes de théories et on est sûr de rien. Et on n'est pas du tout persuadé que le Seigneur est proche, que sa venue est proche, et qu'un jour on ne l'attendra plus, mais qu'un jour il sera venu. Il avait été annoncé depuis 4000 ans, ce Messie, et qui devait écraser la puissance du serpent qui avait séduit Ève. Et pendant 4000 ans, des hommes ont attendu ce salut, jusqu'au jour où enfin un Siméon a reçu dans ses bras un petit enfant des mains de Marie, la mère bénie de notre Seigneur, et s'est écrié: enfin mes yeux ont vu ton salut, celui que Jacob mourant attendait, en disant: j'ai attendu ton salut, j'ai attendu ton Jésus. Eh bien oui, Siméon, lui l'a vu, et il dit: maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, j'ai vu ton salut. Oui, celui qui a été promis est venu. Celui qui a fait la promesse reviendra. Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que cette certitude habite votre cœur et met en vous une espérance? Ou bien êtes-vous de ceux qui disent: oui, je veux bien qu'il revienne, mais plus tard. Il faut d'abord que j'aie ceci, que j'aie cela. Après, je veux bien qu'il revienne. Est-ce que vous avez des préalables avant le retour du Seigneur? Ou bien est-ce que votre espérance est comme une encre de l'âme qui entre au-delà du voile et qui vous maintient dans une stabilité de foi, dans une stabilité de joie? L'espérance ne sera presque plus connue quand Jésus reviendra. Et quant à l'amour, qu'a dit le Seigneur dans le chapitre 24 de Matthieu, dans son grand discours eschatologique? Il souligne que dans les derniers jours, parce que l'iniquité ira en grandissant, parce qu'elle prévaudra partout, l'amour de plusieurs se refroidira. Il fait froid dans ce monde, il fait froid sur la terre, il fait froid même dans les églises, même dans les communautés. Serait-il froid dans ton cœur ce soir? Froid pour ta femme, pour ton mari, froid pour tes enfants, froid pour tes parents, pour ce vieux père qui n'arrive pas à mourir et que tu dois soigner encore. Oh, vous savez, nous ne nous faisons aucune illusion sur le cœur humain. Nous savons ce qui se passe dans notre propre cœur. Et nous savons ce qui peut se passer dans le cœur des autres. Fait-il froid dans ton foyer? Ou bien tes enfants ont-ils du bonheur à revenir à la maison parce qu'ils y trouvent la chaleur de deux cœurs qui s'aiment et s'aiment encore, qui ont su se pardonner, qui ont su se supporter, qui se supporteront encore? Pour quelle raison? Parce qu'ils connaissent Jésus d'une façon vivante et personnelle, et parce que ce Jésus les a conduits jusqu'au cœur de son Père, et que maintenant ils habitent dans le cœur du Père. Le Père céleste, le Père de Jésus-Christ, est devenu leur propre Père, et ils se savent aimés par ce Père, comme Jésus lui-même était aimé. Voilà qui devrait nous rendre fous de bonheur. Vous êtes aimés, frères et sœurs, par le Père de Jésus-Christ, comme il aimait lui-même son propre Fils. Voilà la mesure de son amour. Eh bien, nous allons demander à Dieu que nous puissions pratiquer ces vertus, c'est-à-dire cette foi. Je pense que tous vous connaissez la signification du mot foi, et il y en a plusieurs dans l'Écriture. La foi, dans certains passages, désigne l'ensemble des vérités du christianisme. Il n'y a pas une foi pour les catholiques, une foi pour les protestants et une foi pour les orthodoxes, par exemple. La foi qui a été enseignée aux saints, elle a été enseignée une fois pour toutes, et c'est l'ensemble des vérités révélées par l'Écriture, par les apôtres et les prophètes. Voilà ce qu'est la foi, l'ensemble des vérités chrétiennes. Mais la foi prend aussi un autre sens. Elle peut désigner le degré de connaissance que nous avons dans le Seigneur. Et alors, comme le dit l'apôtre Paul, chacun a reçu une certaine mesure de foi. Plus à Dieu que cette mesure grandit. C'est pourquoi la foi peut être petite ou grande, et que nous pouvons dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Et si nous avions seulement une foi semblable à un grain de moutarde, nous pourrions faire des choses extraordinaires. Mais, et c'est encore un autre sens, il y a la foi considérée comme un don de l'esprit, comme une des manifestations de la puissance de l'esprit. Et la foi, don de l'esprit, permet à certains hommes, pas à tous les chrétiens, mais à certains hommes qui ont reçu ce don de foi, d'accomplir des actes de valeur, comme un Georges Müller, par exemple, qui a eu cette vision de créer en son temps des orphelinats pour tous les déshérités de son pays, et il a réussi, il a cru que Dieu pourvoirait aux besoins que nécessiterait ce rassemblement d'enfants sans parents. Mais quelqu'un qui aurait voulu imiter simplement l'œuvre de Georges Müller aurait fait un fiasco complet, parce qu'il n'avait peut-être pas ce don de foi. Ainsi, Saint Jean de Bosco, lui aussi, avait reçu ce don de foi qui lui a permis de créer ces œuvres qui existent encore et que plusieurs connaissent même au Québec. Et enfin, la foi, dans son sens alors habituel, don de Dieu, eh bien, c'est cette croyance qui repose sur un témoignage. Dieu a parlé et nous le croyons. Et c'est cela la foi.
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Eh bien, je le résume, il a dit deux choses très claires, que l'homme était perdu, quelle que soit la religion de sa naissance, qu'il naisse catholique, orthodoxe, protestant, ou d'un milieu athée, juif ou musulman, ce qui est né de la chair est chair, et malgré toutes les pratiques religieuses, l'homme devant Dieu est perdu et incapable de parvenir à la gloire de Dieu. Et la preuve que nous ne pouvons pas parvenir à cette gloire, même quand on prend Jésus comme modèle. Il y a parmi les chrétiens un grand nombre de gens qui se sont décidés pour un certain Christ, qu'on leur a prêché. Ils ont dit oui à cet être aimable, à cet être ineffable. Ils disent lui avoir donné leur affection, leur cœur, et ils essayent de l'imiter. Et alors, évidemment, ils ont des jours de joie, mais ensuite des jours de tristesse, parce qu'ils voient que c'est impossible de le suivre d'une façon entièrement fidèle. Et ils commencent à douter de tout, et ils sont malheureux. Jésus, par la vie qu'il a eue, n'a sauvé personne. Et Jésus, si vous ne connaissez que sa vie, eh bien, sachez-le, vous êtes perdu. Perdu pour l'éternité, même avec tous vos efforts pour l'imiter. Si vous n'avez qu'un Christ modèle, qu'un Christ extérieur, vous êtes perdu malgré toutes vos pratiques religieuses. Ce qu'il vous faut, c'est la connaissance d'un Christ mort. Car, après avoir montré par toute sa vie ce que c'était une vie qui pouvait plaire à Dieu et qui pouvait entrer dans le ciel, les hommes ayant vu cette vie, qu'ils soient juifs ou romains, se sont mis d'accord pour crucifier le Seigneur de gloire. Et qui s'est opposé à cette crucifixion? Est-ce Pierre, le grand confesseur de la foi? Est-ce l'un des douze? Un l'a trahi et tous l'ont abandonné, de telle manière que Jésus s'est trouvé seul. Mais il fallait qu'il passât par la mort pour racheter l'humanité perdue. Il ne mourait pas seulement pour ôter le péché du monde, mais il mourait aussi pour donner aux hommes la possibilité de mourir en lui et de ressusciter en lui, connaissant ainsi une vie entièrement nouvelle. Et c'est cela qui vous sauve. La foi en un Christ mort, qui a donné son corps, qui a versé son sang, mais si cela vous scandalise, c'est bien de cela qu'il s'agit. Sans un Christ mort, c'est-à-dire qui donne son corps et qui répand son sang, vous n'êtes pas sauvé, vous êtes perdu. Vous pouvez rester avec votre admiration pour Jésus-Christ, vous l'admirerez quand vous serez dans l'état éternel de malheur, car tous les damnés admirent Jésus-Christ, tous se prosternent devant lui, tous les genoux se ploieront. Mais ne sont sauvés que ceux qui ont admis qu'on n'était sauvé que par la mort de Jésus. Et la mort de Jésus est la manifestation, justement, de ce qu'est notre cœur charnel. Il est incurable, et s'il le pouvait, il se débarrasserait de Dieu. Et c'est ce qu'il a montré un jour, quand ils ont mis les mains sur Jésus. Et ceux qui ont mis les mains sur Jésus, c'était des hommes comme vous et moi, pas plus mauvais que vous et moi. C'était des hommes qu'il avait entendus, qu'il avait suivis, comme beaucoup, l'écoutent encore et le suivent. Et pourtant, un jour, quand ils frapperont à une porte fermée, Jésus dira à tous ces gens, « Retirez-vous loin de moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. » et ils se mettront à dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas mangé et bu en ta présence, on aura communié, n'as-tu pas enseigné dans nos rues, on est venu écouter des réunions, on est venu dans des camps peut-être, n'avons-nous pas même fait des miracles en ton nom, on aura imposé les mains, on aura peut-être obtenu des guérisons extérieures. Et Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Ce ne sont pas des gens qui ont perdu leur salut, ce sont des gens qui ne l'ont jamais eu, qui n'ont jamais été en relation réelle et vivante avec lui. Ils n'ont jamais eu ce qui est la foi authentique, qui vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Et ce qu'on entend par la parole de Dieu, c'est que l'homme ne peut être sauvé que par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Qu'on admet que l'on croit, et quand on croit à cette mort et à sa résurrection, on est identifié nous-mêmes dans sa mort et dans sa résurrection, même dans son élévation à la droite du Père, et l'on est redonné à la terre pour lui rendre témoignage par le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, que l'Esprit de Dieu nous anime et nous montre vraiment si nous avons la foi. Alors, si nous avons cette foi qui croit à ce que Dieu dit de nous, mais qui croit aussi au témoignage qu'il rend au sujet de son Fils, nous serons habités par l'espérance de son retour, et enfin, nous serons de ceux qui aiment. Car quand on est habité par une telle foi, par une telle espérance, le Saint-Esprit verse l'amour de Dieu dans nos cœurs pour que désormais nous soyons de ceux qui aiment Dieu. Et voyez-vous, pour ceux qui aiment Dieu, il y a de merveilleuses promesses. Et c'est avec cela que je termine ce soir. Ceux qui aiment Dieu sont comme le soleil quand il sort dans sa force. J'espère que vous aurez du beau temps, qu'ensemble nous aurons du beau temps dans cette semaine, et que réellement vous serez chaque matin comme le soleil quand il sort dans sa force. Quelle vie nouvelle pour vous, hein? Et puis il est dit encore que pour ceux qui aiment Dieu, eh bien, il va se passer quelque chose qui va vous dépasser. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï de l'oreille. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Même quand vous avez décidé de venir dans ce camp, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé pour vous dans ce camp un trésor qu'il veut vous révéler et vous donner si vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous allez recevoir un merveilleux cadeau de la part du Seigneur. Et non seulement cela, il est dit que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui l'aiment. Si vous êtes de ceux qui l'aiment, tout ce qui peut vous travailler, tout ce qui peut vous faire souffrir maintenant, et moi je ne connais pas vos circonstances, mais ce qui est en train peut-être de vous faire souffrir, cela travaille à votre bien. C'est-à-dire que cela va déboucher sur une vie nouvelle. Le vraiment, ce n'est pas toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais toute chose travaille. C'est le mot qui est employé pour une femme qui est enceinte et qui est dans les douleurs, qui est dans le travail. Cela fait mal. Elle souffre, mais elle sait qu'elle va donner la vie à un autre être. Et quand cela est arrivé, il est dit qu'elle ne se souvient plus de ses souffrances, tellement elle a de la joie, parce qu'elle a donné la vie à un autre être. Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et enfin, il est dit, bienheureux l'homme qui endure l'épreuve. Vous avez enduré cette réunion. Eh bien, soyez des bienheureux. Hein? Vous m'avez enduré ce soir. Bienheureux l'homme qui endure l'épreuve, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. C'est toujours à ceux qu'il aime. Eh bien, que dans ce camp, nous soyons renouvelés dans ces trois vertus. La foi, une foi vivante,
qui nous sauve, mais qui nous fait vivre chaque jour de foi en foi. Une foi sans cesse renouvelée, une espérance qui ne nous confond point et qui nous réjouit au travers de toutes nos épreuves, et un amour.